c'est que s'ils ne livrent pas les baisses d'impôts, le monde qui a voté pour ça, ils sont cocus. Alors, moi, je suis à cheval sur les promesses électorales. Puis j'ai été victime d'une promesse reniée parce que quand j'ai été élu avec Jean Charest, il m'avait promis de changer l'assurance automobile au Québec, ce qu'il n'a pas fait.
Ouais.
J'ai sacré mon camp après un an parce que je me suis dit, il n'y a pas de parole, je m'en vais. C'est comme un contrat. Un gouvernement fait un contrat avec le peuple en disant, on va faire ça, ça, ça. Je comprends que il peut y avoir des changements importants dans la société qui fait qu'une promesse devient à peu près impossible à réaliser. Mais tu sais, quand le gouvernement fédéral, avec Justin Trudeau, décide de promettre un changement du mode de scrutin puis qu'il ne le fait pas, ça m'écœure. Puis quand le gouvernement de la CAQ promet des promesses d'impôts, il doit les donner, les promesses d'impôts. Il peut jouer sur les promesses d'impôts, il peut donner moins ou plus de promesses d'impôts, mais pour moi, un engagement électoral, c'est comme si quelqu'un me dit, ben, je vais te donner telle affaire ou je vais te livrer telle affaire. C'est un contrat. Puis si on veut que nos gouvernements soient crédibles, on veut que les gens aient confiance dans le système politique, mais il faut que les gouvernements livrent ce qu'ils promettent. Sinon, il n'y a plus aucune confiance dans la démocratie. Et puis, c'est pour ça que nos institutions sont en danger, parce que les gens ne leur font plus confiance, notamment le gouvernement élu.
Moi, je voterai pour vous, Maître Bellemare.
Non, non, mais c'est comme ça que je vois ça,
Ben
parce que,
oui,
tu
ben
sais.
avec raison, avec raison. Puis, tu sais, on va parler des promesses de politiciens dans les prochaines secondes, là, mais tu sais, juste vous faire un aparté, là. Le gouvernement en place a dit, nous, on va faire des baisses d'impôts, ça s'en vient, votez pour nous. La majorité des gens qui ont de la misère présentement à joindre les deux bouts trouveraient qu'une baisse d'impôts, ça a bien du sens. Puis c'est de voir toutes les centrales syndicales qui transitent autour du gouvernement, parce qu'il y a des conventions collectives qui vont être renouvelées, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Eux, ils ne veulent pas se faire dire pour leurs membres qu'il ne reste plus d'argent dans la caisse. Donc, c'est la raison pour laquelle les centrales syndicales travaillent pour leurs membres à eux, puis ils disent au gouvernement, s'il vous plaît, baissez pas les impôts, faudrait qu'il nous en reste, hein, pour se graisser encore plus. C'est pour ça qu'ils veulent pas, pour ça qu'ils veulent pas que le gouvernement baisse les impôts, parce qu'ils pensent à leurs membres et non à la population en général, la plèbe. Hein, donner de l'argent, plus, laisser plus d'argent dans leur poche à la plèbe, ça n'aurait pas de bon sens pour ces gens-là.
Non, bon, on est rendu quasiment à 60 milliards de budget. C'est la moitié du budget du Québec dans le système de santé.
Ouais.
Et l'expérience nous a démontré que plus d'argent ne change rien à la qualité des soins. Au contraire, ça diminue tout le temps. C'est pas parce qu'on a plus de monde qu'on a plus de services et qu'on a une meilleure qualité de service. C'est prouvé, 2 plus 2, là. On le sait. Alors, il faut essayer de trouver des raisons à l'interne pour améliorer le système à partir de l'enveloppe qu'on a. Mais ça, c'est une donnée, mais plus vrai encore, les baisses d'impôts, il y a des gens qui ont voté pour les baisses d'impôts, puis qui ne sont pas nécessairement dans la misère, là. Il y a des gens qui font de l'argent au Québec. Il y a des gens qui ont des bons revenus. Mais la personne qui gagne 200 000 ou 300 000 ou 75 000 par année, elle est peut-être écœurée de payer de l'impôt, puis elle a le droit de vote comme tout le monde. Elle a voté pour une baisse d'impôt, pas parce qu'elle a de la misère à rejoindre les deux bouts la fin de semaine, parce qu'elle est écœurée de payer. C'est aussi un argument.
Ouais.
Et c'est son vote et c'est sa décision. Alors, si elle a voté pour un gouvernement qui va baisser les impôts, puis que le gouvernement ne baisse pas les impôts parce qu'il dit qu'il y a des besoins, puis incidemment, ces besoins-là sont connus depuis 25 ans, là.
Ouais.
C'est pas une situation anormal ou exceptionnel qui est survenu après l'élection qu'on ne connaissait pas avant, qui pourrait justifier peut-être un changement de cap ou un retrait de cette promesse-là.
Ouais, mais pour ce qui est de
Il
la
n'y a
planification.
rien sous le soleil qui justifie que la promesse ne soit pas livrée.
Pour ce qui est de la planification, puis ça, c'est un tout autre sujet, Maître Bellemare, là, mais tu sais, vous qui êtes un ennemi juré, je pense, chez certains individus qui travaillent à la SAAC, d'ailleurs, on me dit que votre photo est sur un jeu d'or lors des parties d'employés, là. Quand on regarde ça, là, la planification à la SAAC pour le nouveau système informatique, soyons sérieux, on roulait sur le même système depuis Payette en 1979. On est rendu en 2023, puis on dit, hey, en période d'achalandage, là, l'idéal, ça serait de mettre notre nouveau système sur lequel on travaille depuis 3 ans et 4 ans, qui est incroyable, là, il n'y aura pas de problème. Ce serait la meilleure des idées de mettre ça en période d'achalandage, de mettre ce nouveau système-là. de voir à quel point c'est un fiasco monumental, puis qu'on se dit, ouais, ça prendrait peut-être encore 3 mois là, pour roder ce nouveau système-là, ça doit vous faire sourire un peu. C'est du grand n'importe quoi. C'est de l'amateurisme à son paroxysme. Une entreprise privée ne pourrait pas se permettre ça. Ce serait la fermeture, ou du moins, ce serait le congédiement de toute l'équipe qui a travaillé sur la planification de ce projet-là. Là.
Oui, c'est juste les monopoles d'État, Yann, qui peuvent se permettre ça, parce que les monopoles d'État, on n'a pas le choix que de travailler avec eux. La Société de l'assurance automobile a le monopole au niveau de l'immatriculation. Elle est un monopole obligatoire au niveau de l'adhésion pour ce qui est des dommages corporels. On est obligé de payer pour ça. Si tu as un accident d'auto, tu es obligé de te référer à la SAC parce que tu ne peux pas poursuivre personne devant un tribunal. Alors, c'est comme l'Auto-Québec qui a le monopole des casinos puis des loteries. C'est comme Hydro-Québec qui a le monopole de l'hydroélectricité. Alors, mais tu sais, je m'imaginais un peu là ce qui adviendrait de, je sais pas moi, Air Canada, par exemple. Demain matin, Air Canada, qui est une compagnie privée maintenant, qui vit ce genre de bug informatique. Qui n'est plus capable de servir ses clients, c'est terminé, là. Jamais ils vont se relever de ça. Air Canada ferait faillite littéralement dans les mois qui suivent. Si c'était Vidéotron, ça serait probablement la même chose aussi. Si c'était le Canadien de Montréal, mais les entreprises privées ont une tête sur les épaules. Puis le Canadien de Montréal, c'est bien que s'il y a des changements informatiques à faire sur son site, c'est en juillet qu'on le fait, quand le monde n'est pas là, quand les gens n'ont pas l'intention de faire des transactions particulières.
Ouais.
Il faut évaluer la période de l'année où c'est le plus bas pour faire un certain nombre de tests. Advenant le cas où il y aurait une faillite du système ou une incompétence. Et là, on voit bien que c'est une faillite totale. C'est très grave ce qui se produit. Et là, M. Kerr, le ministre responsable du numérique dans le gouvernement, dit que c'est pas lui. Puis non. Moi, je pense que techniquement, il a raison.
Oui, mais sauf qu'on... sauf qu'en tant qu'équipe, là, tu fais pas ton judas, là. Tu dis, regardez, moi, j'ai rien à voir avec ça, mais savez-vous quoi? Je vais tout faire en œuvre pour que les Québécois puissent retourner très rapidement à la SAAC et aient le service escompté. C'est pas de se libérer comme il l'a fait. Il a tiré les gens de la SAAC en dessous du camion, puis il a dit... Crever, sacrifice, c'est ce qu'il a dit, là.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, la SAC, c'est quand même une société d'État qui a un conseil d'administration, un PDG, dont les jours sont comptés, j'imagine.
Ben oui.
En tout cas, je le souhaite, M. Denis Marsolais. J'espère qu'on ne le verra plus prochainement parce que vraiment, lui, il est imputable au niveau de la responsabilité, hors de tout doute. Mais ce que M. Kerr a dit, c'est vrai que techniquement, il n'est pas responsable, mais ce qu'il devrait dire aussi, c'est nous allons nous en occuper
et nous
allons dépêcher instamment une équipe d'experts pour remédier à la situation parce qu'au bout de la ligne, les gens qui votent, là, ils ne votent pas pour la SAC puis le président de la SAC aux élections, ils votent pour le gouvernement.
Exact.
Puis je pense que ça, cette tâche-là va rester longtemps dans la tête des citoyens, parce que ça survient dans un moment de l'année où les files d'attente, les gens qui gèlent, l'hiver, c'est l'enfer. S'il y a un problème, là, t'es obligé d'avoir accès à ces systèmes-là.
Ah oui.
Comme la crise des passeports, si c'est l'hiver, t'as du monde dehors qui gèle à moins 20 degrés pour avoir un passeport. C'est la même chose pour les permis actuellement. Je comprends que c'est un peu plus doux, là, mais tu sais, mi-février, on a eu quand même des froids importants. Les gens vont là, puis ils gèlent, puis ils passent 12 heures à attendre dehors. C'est inacceptable. Mais je ne sais pas, là. Je ne sais pas ce qui va devenir de ça, mais le gouvernement de la CAQ gère assez mal cette situation-là.
Ben là, la Guilbeault qui
est dans... Même si Mme Guilbeault promet des roulottes et des beignes. Là.
Non.
La Guilbeault qui est l'équipe additionnelle.
Ouais. La Guilbeault qui est en voyage à travers le monde pour regarder comment ça se passe, le transport en commun, alors qu'elle n'a aucune idée comment ça fonctionne, le transport en commun. Elle n'a pas les études nécessaires pour voir comment ça se passe, le transport en commun, qui décide de revenir d'urgence. Elle était supposée aller en France, puis Je perds l'autre
Métro
nom.
Métro de Paris, je pense, la semaine passée.
Oui, c'est ça, en France, puis ça va me revenir, là, mais bref, est revenue. La directrice des coms qui était en voyage pendant le changement de plateforme, la directrice des coms de la SAC, je veux dire, ça, c'est du grand amateurisme, mais en même temps, tu sais, il n'y a pas grand monde qui est surpris. Je suis un peu d'accord avec vous, il va falloir qu'il y ait au moins une tête qui tombe de ça. Ça n'aura pas de bon sens que tout le monde se claire de cette affaire-là. Tu sais, je veux pas de sang, là, mais à un moment donné, je veux qu'on donne l'exemple. C'est-à-dire que si tu mets tout le monde dans le pétrin, ben nous autres, on va te dire que tu fais pas bien ta job, puis merci, bonsoir, tu vas aller faire d'autres choses. C'est des gens qui sont pas payés 20$ de l'heure. C'est des gens qui ont des salaires exorbitants, qui travaillent pour la fonction publique. J'aime beaucoup Conrad Sioui, là, qui est au conseil d'administration de la SAC, mais il a été mis en place là pas pour ses grandes connaissances dans le milieu de l'assurance puis du transport. Il a été mis en place en raison du fait qu'il était membre des Premières Nations. Puis comme on avait un petit peu de difficulté à certains endroits avec certains assureurs, parce que les assureurs ne voulaient pas assurer des gens qui étaient dans des réserves, bon, on s'est dit, on va donner le poste de président du CA à Conrad Sioui, puis il va tenter d'essayer de faire quelque chose pour la SAC. T'sais, si on fait des nominations comme ça, on n'arrivera jamais à rien. Ça prend des gens qui s'y connaissent, tabarouette, au départ, là, pour qu'ils puissent bien faire le travail. C'est comme si on me dit du jour au lendemain, vous allez remplacer Marc Bellemare. Ouais, mais je connais pas le droit, mais c'est pas grave. T'as de l'air sympathique, t'as l'âge qui correspond à l'âge qu'on veut, va remplacer Maître Bellemare. Non, mais t'as peu. Ça prend des compétences pour faire votre métier, là. Ça prend des compétences pour faire leur métier. Pourquoi on choisit les gens en fonction d'où est-ce qu'ils viennent ou de la couleur de leur peau? Je comprends pas. On dirait qu'on s'en va dans un trou sans fin.
Oui, parce que quand tu regardes le conseil d'administration de la SAC, c'est beaucoup de la relier au domaine des transports, les ligues de taxi, les carrossiers, les entrepreneurs routiers. Il y a généralement peu de victimes quand il y en a, parce que pendant nombre d'années, j'avais vérifié ça, moi. Contrairement au conseil d'administration de la CNESST, où tu as des syndicats paritaires, autant de monde syndical, donc les travailleurs, que du monde patronal, tu n'as pas la même composition, mais les CA peuvent... Les conseils d'administration peuvent varier selon les lois constitutives. Mais dans ce cas-ci, on a affaire à une problématique qui est très, très numérique, là. C'est le système informatique de la SAC. C'est vraiment de la gestion, là. Le conseil d'administration ne commence pas à dire on va faire tel type de système informatique, on va faire tel virage numérique au niveau de la SAC. Ça se passe au niveau de la gestion. C'est là que c'est Denis Marsolais qui est le directeur en chef, là, le grand PDG, boss de la SAC, qui doit s'assurer de tout ça. Puis c'est un mandarin, Denis Marsolais. Il a fait plusieurs conseils d'administration depuis une vingtaine d'années. Il a été relativement prisé parce que pour être PDG de la SAC, c'est quand même pas une binerie, là. Mais là, je pense qu'il a frappé son Waterloo parce que c'est sûr qu'il n'y a aucune espèce d'excuse valable. Et la SAC joue un rôle majeur du côté transport, permis de conduire, les carrossiers, les routiers, l'immatriculation, les motoneiges.
Mais Bellemare,
parce que tout est immatriculé au Québec. Ouais, et puis les victimes aussi du côté d'indemnisation, il ne faut pas oublier ça.
Vous avez parlé des routiers, là, puis du renouvellement des flottes. Là, ça, c'est dans le coin dans deux semaines, là, à la fin du mois de mars, là. Ces gens-là devront renouveler leur permis de conduire, devront renouveler leur flotte, faire leur papier à la SAC. Parmi ceux-ci, il y a des gens qui doivent travailler régulièrement aux États-Unis. Là. S'ils ne régularisent pas leur situation dans les trois prochaines semaines, ils vont être privés de travail pendant des semaines et des semaines.
Oui, mais c'est pas juste ça. C'est que ça crée un certain chaos au niveau de la gestion du réseau routier. Tu sais, on dit, oui, comme les permis de conduire, on va donner un délai pour le renouvellement. On va demander aux polices d'être indulgentes par rapport à telle situation. Mais as-tu vu le bordel? Comment? Tu sais, ce bordel-là amène un autre bordel sur le terrain. Parce que comment, comme policier, comme administrateur, tu gères ça? Comme utilisateur du réseau routier, ton permis, tu sais, t'es toujours sur le nerf. Ça va-tu marcher? Ça marchera-tu pas?
Ouais.
Il y a des périodes de validation. Puis, c'est quoi les dates déjà? T'sais? On est-tu arrivé à cette date-là? Ça crée une confusion sur le terrain. Et en plus d'avoir des problèmes de gestion pour les bénéficiaires, on crée d'autres problèmes de gestion puis d'administration des règles sur le terrain. Alors, là, il faut comprendre qu'il doit y avoir des formations qui se donnent dans les corps de police municipaux, les formations au niveau de la Sûreté du Québec, les formations au niveau de l'industrie du camionnage, les permis, comment ça marche, les vacances qui s'en viennent, c'est un autre genre de problème, des gens qui voulaient renouveler pour aller, comme tu disais, aux États-Unis, qui ont besoin de faire des validations. Ça crée toutes sortes de problèmes sur le terrain. Et écoute, je ne sais pas si on a déjà vu ça. T'sais, on a vu des catastrophes au Québec. Là, la pandémie, on a vu le verglas, mais ça, c'est act of God. Hein. On comprend que ce n'était pas voulu. C'est des situations catastrophiques qui surviennent, qui obligent l'État à s'ajuster à des situations externes. Mais là, c'est vraiment interne le problème. C'est vraiment un problème de compétence au sens du dictionnaire, compétence brute de nos dirigeants qui sont, comme tu le dis, en tout cas ceux qui sont en poste décisionnel à la SAC, c'est pas, ils sont pas au salaire minimum. Là.
Mais ça arrive-tu ailleurs, Maître Bellemare? Parce que moi, j'entends pas ces nouvelles-là d'ailleurs. On dirait que c'est une catastrophe qui arrive chez nous, puis tout le monde semble trouver que ça peut arriver. Mais d'un autre côté, ce système-là, là, on n'aurait pas pu l'emprunter en Ontario. T'sais, j'imagine qu'en Ontario, ils ont ce type de système-là. On n'aurait pas pu leur dire, ben regardez, ouais, on aimerait prendre votre système qui fonctionne bien, puis on pourrait l'adapter aux couleurs de la SAAC, puis voici. Non, on repart de zéro. C'est comme, on avait Amazon, là. Puis là, on s'est dit, hey, ça fonctionne bien Amazon, on pourrait faire la même chose au Québec. Moi, je pensais qu'elle allait appeler ça Amazouf, là, mais ils ont appelé ça le panier bleu. Puis là, finalement, tu regardes ça, ils ont reparti la recette du départ, puis le panier bleu ne fonctionne pas, mais fonctionne pas pantoute. Toujours des déceptions et des déceptions, alors qu'ailleurs, ça existe, ce genre de système-là. On aurait pu le faire, puis de l'amener chez nous, là, sans espérer, sans penser qu'on allait se faire copier par les Chinois. Là. Mais c'est du grand n'importe quoi. Bref, on a fait une aparté pour ce qui est de la SAC. Je pense que j'étais motif par rapport à ce sujet-là, je sais pas pourquoi. Mais on parlait de promesses de politiciens. Je sais pas si vous avez vu l'émission vendredi de JE avec Félix Séguin qui revient sur le 10 ans plus tard là, des fameuses évasions en hélicoptère qu'on a eues au Québec en 2013 et 2014. L'avez-vous vu?
Oui, je l'ai vu, oui.
C'est incroyable de voir qu'encore à ce jour, parce qu'il y a eu des conférences de presse par la suite de nos politiciens en disant, écoutez, ce qui s'est passé là, le fait que nos centres de détention au Québec soient des passoires, on va veiller à ce que ça n'arrive plus jamais. Maître Bellemare, il y a combien de centres de détention à la grandeur du Québec qui sont équipés de façon à faire face aux hélicoptères qui pourraient peut-être atterrir là, sur les centres de détention pour ramener des prisonniers à l'extérieur des grilles? Combien en pourcentage?
Ben moi, je dirais, écoute, d'abord, il faut faire de la différence entre les prisons. Les prisons, c'est des prisonniers qui sont condamnés à 2 ans moins un jour et moins, alors que les pénitenciers, c'est plus que 2 ans. Les vrais mauvais citoyens, les criminels graves, ils sont des pénitenciers fédéraux, puis les prisons, c'est plus des condamnés de 2 ans moins un jour, donc de plus court terme. Mais ce qui m'inquiète plus, moi, c'est les pénitenciers fédéraux. Mais je dirais peut-être, je ne sais pas, qu'ils sont équipés pour faire face à ça. Ils doivent en avoir, je ne sais pas, 90 %.
Ben non. Malgré le fait que les policiers sont tous assis à table en disant « on va régler le problème », on a 15 % des centres de détention à la grandeur du Québec qui sont équipés pour faire face aux invasions par hélicoptère.
Eh bien, ça veut dire que c'est le temps de se promener en hélicoptère pour aller chercher des amis.
Oui, puis en jasant avec quelqu'un vendredi, on me dit que maintenant, c'est un auditeur qui nous avait écrit quand on jasait de ça, on a dit que maintenant, on ne donne plus les heures de sortie aux détenus. Donc, les détenus ne savent pas quand ils sortent. Là. Et des fois, ils se font avertir un peu à l'avance.
OK. Ben ça, c'est une manière plutôt administrative. Mais est-ce qu'il y a des manières plus techniques, je ne sais pas moi, des détecteurs de vol, des filets au-dessus de la cour de récréation pour éviter qu'il y ait des objets qui tombent du ciel pour venir chercher un détenu? Est-ce qu'il y a des moyens techniques qui sont mis de l'avant ou c'est juste une gestion des horaires?
C'est une bonne question.
Parce que s'il y a 15 % qui sont équipés, j'imagine qu'il doit y avoir des équipements pour détecter les objets volants qui se situent, puis il doit y avoir un système d'alarme ou un système de détection, parce que, tu sais, l'espace aérien, c'est pas facile à gérer, là.
Ah oui, mais effectivement, mais...
Un hélicoptère, ça va partout, c'est comme une mouche, hein?
Oui, mais j'en avais jasé un petit peu avec vous, il y a de ça quelques temps, je pense, en fait, quelques temps, il y a de ça quelques années, là, j'avais été aux États-Unis, puis pour régler les problèmes de drones aux abords des aéroports, aux États-Unis, ils engagent des faucons. et il les forme pour attaquer les drones et les ramener dans une boîte qui se referme automatiquement. Donc, si un faucon voit un drone au-dessus d'une piste d'atterrissage, ben il émet un bruit et l'entraîneur laisse sortir le faucon, si c'est sécuritaire, bien entendu. Le faucon va chercher le drone et le ramène à destination. Puis après ça, il y a une enquête qui est entamée. C'est tellement pas compliqué comme stratégie. C'est une stratégie qui est tellement intéressante, tu sais. Puis ça coûte pas si cher que ça à payer un faucon. D'après moi, tu le payes pas à l'heure, là. Un faucon, tu sais, une fois qu'il est entraîné, là, il est là, puis il fait le travail. On n'a toujours pas ça au Québec. On se dit toujours, ouais, faudrait peut-être passer des lois là, pour que les gens n'utilisent plus les drones au-dessus des pistes d'atterrissage. C'est dangereux pour ce qui est des pilotes. Mais ça avance pas. Au même titre que les promesses de politiciens suite aux évasions, deux évasions en quelques mois, en 2013 et 2014, les politiciens sont sortis en disant « on va faire quelque chose, finalement, il n'y a rien qui peut se faire ». Puis ce qu'on a appris en 2013-2014, c'est que les règles d'engagement pour les gardiens de prison, faut que la vie de quelqu'un soit en danger pour tirer Maître Bellemare. Ce qui n'est pas le cas quand il y a des gens qui essaient de s'évader. Donc, techniquement, leurs armes à feu ne servent absolument à rien, si ce n'est que jamais.
Alors, votre vie est plus en danger quand vous êtes en dedans que quand vous vous sauvez. Parce que quand vous vous sauvez, en principe, votre vie est moins en danger.
Ouais.
Mais effectivement, il va falloir attendre qu'il y ait une autre évasion spectaculaire, qu'il y ait un autre dangereux bandit qui a tué 40 personnes au couteau qui se sauve. À ce moment-là, là, tout le monde va capoter, puis on ne sait pas où il est, puis on a fait une chasse à l'homme. Puis là, tu as un ministre qui va sortir pour dire, bien, on va s'en occuper, puis là, c'est vraiment le temps qu'on fasse quelque chose. Mais on a fait quelques affaires depuis le temps, mais vous savez, ça coûte cher, puis c'est très compliqué de gérer tout ça, puis c'est virtuellement impossible d'empêcher toute forme d'évasion. Puis ça va être ça, le discours, Yann.
Ouais,
mais tu sais, tu as raison, sur la question fondamentale de savoir pourquoi les gouvernements n'ont pas livré les changements structurels, matériels, administratifs auxquels ils s'étaient engagés il y a quelques années, c'est des promesses qui n'ont pas été respectées. Mais combien de fois, après un événement grave comme celui-là, là, comme la famille Carpentier qui a tué ses deux filles, là, ça va être Martin Carpentier, ça va être ça. Là, tu as un rapport du coroner qui va sortir. Là, ils vont dire on va modifier l'alerte Amber, on va modifier le système, on va améliorer les unités, on va créer un autre groupe de travail. Puis finalement, c'est pas dit que cette situation-là ne se répétera pas dans 10 ou 15 ans. Là. Plus c'est exceptionnel, moins c'est courant, fréquent, quotidien, plus c'est facile de ne pas respecter ta promesse parce que plus rapidement elle tombe dans l'oubli, plus rapidement les médias passent à autre chose, plus rapidement les gens sont ailleurs, puis... Plus ça passe pour un cas isolé aussi.
Maître Bellemare, on va faire un petit peu plus léger, puis on reviendra à des dossiers peut-être un peu plus sérieux dans les prochaines minutes. Mais moi, j'ai longtemps eu dans mon fond d'écran, là, sur mon ordinateur, un individu qui était dans une commission. Il se faisait interroger et il avait replacé ses lunettes avec son doigt, son majeur, je pense. Et il semblait regarder un individu. Et moi, j'avais fait un screenshot là, de ça et j'avais cet individu-là. Ben oui, j'avais cet individu.
Ça fait 13 ans.
Comment ça, vous avez la date? C'était-tu vous, cet individu-là?
Ben
oui, c'est
ça. En août 2010.
Mais vous avez replacé vos lunettes avec ce doigt-là par hasard, j'imagine?
Ben oui, je pense pas, mais je pense que je le fais encore souvent. Mais tu sais, c'est ça. Ben écoute, on a 5 doigts, là. Ouais. Ben 4 doigts puis un pouce, là. 5 doigts dans chaque main. On est dans un pays libre, on a-tu le droit de se servir du doigt qu'on veut? Tu remontes tes lunettes ou quand tu te joues dans les oreilles, là, ou quand tu te frottes le menton, là, tu peux même prendre des doigts que tu veux. Okay. Mais oui, effectivement, la commission Pastarache, j'avais replacé mes lunettes avec mon majeur.
Votre majeur. Mais ça, c'est un hasard.
Je pense pas que ce soit un hasard, mais là, je l'avais noté parce que d'autres comme toi, d'autres observateurs fins avaient observé la chose. Puis quand tu fais j'avais témoigné pendant 5 jours, fait que je me suis retrouvé sur le web plus souvent qu'autrement à plusieurs reprises, mais effectivement, j'avais replacé mes lunettes avec mon majeur, puis c'est pas ça a été vu comme une. Il y en a qui ont pensé peut-être que j'avais fait exprès ou que j'avais passé un message sournois. Remarque bien que c'était peut-être le doigt qui était indiqué à d'autres fins, si tu veux mon opinion, parce que la personne à qui je parlais quand j'ai levé mes lunettes, c'était pas nécessairement un ami, mais j'irais pas jusqu'à faire faire preuve d'autant d'impolitesse. Volontairement.
Ben, c'est ça. Laissez-nous dans le doute, Maître Bellemare. On dit que faire un doigt d'honneur, c'est un droit qui serait fondamental, et ça, c'est selon la justice québécoise.
Oui, mais tu sais, ça, c'est un jugement qui a été rendu par un juge de la Cour du Québec et qui touchait à une chicane de voisins. Mais ce qui est pire encore, c'est que c'est le DPCP qui a déposé les accusations à cause de ça, qui voyait là une forme de menace. Bon, j'ai pas les accusations précises qui étaient présentées au. Ça sonne ici, là. Désolé.
Il n'y a pas de problème. On n'entend rien.
OK. Alors, la question qui se posait, c'était de savoir si c'était une infraction criminelle que de montrer le majeur, le finger, là, tu sais, va chier, tu sais, avec ton doigt, là. C'est-tu une infraction criminelle? Puis le juge a dit, ça fait partie de la liberté de l'expression. C'est comme un mot mal placé. C'est comme une insulte verbale, c'est une forme d'insulte, mais ça fait partie du grand registre de la liberté d'expression. Manquer de respect, agresser d'une façon, c'était pas une agression physique ou une agression, c'était pas une voie de fait ou quoi que ce soit. Alors le juge a considéré que c'était pas grave. Et ça faisait partie d'un droit fondamental. C'est pas de montrer le doigt. C'est pas marqué dans la charte fédérale, montrer le doigt, c'est un droit. C'est marqué que tu as le droit de t'exprimer. Puis le juge a dit, ça fait partie de la grande famille des modes d'expression. C'est pas le mode d'expression le plus vulgaire, mais le plus acceptable, mais c'est pas une infraction criminelle. Et ça, dans la presse, du 10 mars, il y a un bon article, une bonne chronique d'Isabelle Haché, qui est une chroniqueuse très respectable de la presse à Montréal, qui a parlé de ça et qui déplore le fait que ce genre d'affaires-là se soit retrouvé devant le tribunal, qu'on paye par nos impôts pour qu'un juge décide que c'est pas criminel. Elle trouve ça ridicule, puis je pense qu'elle a raison, parce que, tu sais, c'est une chicane de voisin. Toi, là, tu t'appelles la police parce que ton voisin t'a montré le doigt, la police dit « Ouais, on va l'accuser au criminel, c'est... » C'est n'importe quoi, là.
On dépense de l'argent
Alors,
pour rien.
écoute, les tribunaux ne doivent pas servir à ce genre de situation-là. Et je pense que les policiers devraient s'intéresser à des crimes plus graves qui ont des conséquences avec des vraies victimes plutôt qu'à ce genre de niaiserie-là. Et c'est un peu ça qu'elle dit, puis je suis d'accord avec elle.
Mais c'est surprenant que ça se soit rendu en cours.
Oui, c'est surprenant parce que, tu sais que toi, tu décides de poursuivre ton voisin parce qu'il a brisé ta clôture, ou parce qu'il a brisé ton abri tempo, ou parce qu'il a lancé, il a brisé une vitre, ou je ne sais pas, mais il a brisé ton gazon. C'est une autre affaire, c'est une question de voisinage. Si tu as assez de temps à perdre pour mettre un avocat là-dedans, payer un avocat chèrement, aller devant le tribunal, faire perdre ton temps à ton adversaire, à ton voisin, ben c'est ton problème. Mais là, c'est pas ça, c'est des ressources publiques. Parce que c'est une chicane de voisin, il y a une espèce de parano à côté qui trouve que les enfants du voisin jouent dans la rue, ils ont 2 et 4 ans, ils jouent dans la rue, puis ça écœure le voisin, il aime pas ça, puis là, tes enfants, ils n'ont pas d'affaires dans la rue, puis le bonhomme, il est frustré, puis il arrête pas d'écœurer. Puis il rentre dans sa cour, puis il sort de sa cour à pleine vitesse, sans ralentir, même s'il y a deux jeunes enfants qui jouent autour. Puis à un moment donné, le père de famille est écœuré, puis il monte le doigt. Mais là, non seulement il a raison de le faire, mais c'est le voisin qui est capoté, c'est pas le gars qui a montré le doigt. Mais le juge dit dans son jugement, ce genre de dossier-là, j'aimerais ça le jeter par la fenêtre, mais malheureusement, au palais de justice, les fenêtres sont fermées. Je peux pas faire ça. Il dit ça dans son jugement. Il dit en anglais, là, mais il dit. Alors, ça te montre jusqu'à quel point il est exaspéré, jusqu'à quel point ce genre de dossier-là fait perdre leur temps à tous les greffiers, les secrétaires de juge, le juge, les avocats, tout le monde qui travaille là-dedans. Ça coûte un bras, c'est pas, comme je te disais tantôt, c'est pas du monde au salaire minimum, là. Ça coûte cher les ressources au plan juridique. On n'arrête pas de dire qu'on est obligé de faire des Jordan à pelleter, là,
Oui.
parce qu'il y a plein de causes importantes qu'on va peut-être devoir abandonner parce qu'on n'a pas les ressources d'un palais de justice. on n'a pas les gardiens, les constables spéciaux, on n'a pas les greffiers. On se permet de se payer ce genre de causes-là. C'est révoltant.
Est-ce que, je vous ai déjà posé la question, il y a de ça à peu près 6 mois, Maître Bellemare, mais je vous la repose, cette question-là. Est-ce que de plus en plus, les cours reviennent un peu à ce que c'était avant la pandémie, c'est-à-dire tout le monde doit être présent dans la même salle pour qu'on puisse procéder, ou de plus en plus, depuis la pandémie, on décide tout simplement de dire, ben, si l'avocat est à Québec puis nous, on procède en Gaspésie, ben, l'avocat peut faire le même travail en présentiel que sur Zoom. Est-ce qu'on est plus ouvert? Il me semble que ça sauve énormément de temps. Hein?
Oui, ça sauve énormément de temps, mais il y a encore beaucoup de juges qui veulent voir les gens, les parties devant eux ou elles plutôt que sur Zoom. Bon, il y a des juges qui pensent que si c'est sur Zoom, les avocats peuvent passer des messages à leurs témoins, alors que devant la cour, il n'y a pas de fling-flang comme ça qui peuvent se faire, ou de signaux, ou de petits billets pour influencer les témoins. Il y a peut-être des juges aussi qui veulent voir la mimique du témoin dans des causes où c'est beaucoup la crédibilité qui compte. Voir comment le témoin réagit à des questions, jusqu'à quel point il est embarrassé quand il parle de telle affaire. Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce qu'il y a des problèmes de santé? Est-ce qu'il est apte au travail ou pas? Est-ce qu'il y a une façon de se comporter? Tu sais, le body language, c'est important. On le voit un petit peu moins sur le web. Tu sais, sur le web, t'es pas comme en personne, t'as pas la même approche. Mais tu as raison, il y a un prix cher à payer pour voir la face du monde en direct, en personne, ben dans oui. une salle de cours. Les parkings, les déplacements, les frais que ça coûte, parce qu'on parle beaucoup d'accessibilité aux tribunaux. Dans tous les grands discours des ministres de justice, puis des bâtonniers, puis les grandes les ouvertures des tribunaux, où tout le gratin judiciaire est là, puis politique, on est tout le temps sur la même affaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'accès à la justice, diminuer les frais de cour, diminuer les délais? Mais c'est certain que le virtuel, c'est la première chose à laquelle on devrait penser. Mais il y a beaucoup de résistance encore. Et je te dirais que oui, il y a 2 ans, tout se faisait pas mal sur le virtuel, mais de plus en plus, on retourne, peut-être pas à 100%, mais de plus en plus, il y a une tendance à retourner à la bonne vieille manière dans les salles de cours avec les personnes présentes. Alors, devant plusieurs tribunaux, on demande, si on veut faire du Zoom ou du Teams, on demande si toutes les parties sont d'accord. Fait que c'est sûr que si c'est une cause à toi, puis qu'il y a un avocat qui décide, lui, qu'il aime mieux faire ça en personne parce qu'il veut voir la face du témoin ou la face de l'expert quand il témoigne, parce que lui, pour lui, c'est important.
Ouais.
S'ils décident que ça se passe en personne, ben, faut que tout le monde soit d'accord parce que c'est un mode alternatif. Le principe, c'est que les gens sont présents. C'est ça le principe. Il y a aussi la question de l'accessibilité aux tribunaux en termes de publicité. La justice est publique. Alors, si tu as un procès qui implique des gens connus ou une cause importante avec des médias qui assistent à ça, ben, sur Zoom, c'est un peu moins facile que de voir les gens se déplacer, les gens bouger. Ça peut diminuer un petit peu la qualité de la surveillance ou la qualité de la l'observation, si vous voulez, au point de vue des médias. Mais ceci étant dit, il faut trouver un équilibre là-dedans. Puis moi, je suis d'opinion qu'il faut qu'on soit le plus web possible pour diminuer les coûts, parce qu'au bout de la ligne, c'est le citoyen qui paye pour ces shows-là, puis ces grands rassemblements-là, puis ces procès-là qui finissent plus. Le citoyen paye plus cher quand c'est en présentiel que quand c'est en virtuel. Puis si on veut diminuer les coûts, favoriser les délais, libérer les rôles, il faut y aller avec le numérique. S'il y a une profession, puis s'il y a un domaine dans la société qui se prête bien au numérique, c'est bien le droit et la justice. Plus que la médecine encore, puis plus que l'éducation.
Ouais. La paperasse, est-ce que c'est encore toujours la même, c'est toujours sur papier, ou maintenant c'est plus format numérique? Parce que ça, c'était une problématique aussi au palais de justice.
Là. Oui, c'est de plus en plus numérique.
Ouais.
C'est de plus en plus numérique. Puis moi, je plaide beaucoup devant le tribunal administratif du travail, des dossiers d'accidentés. Il nous envoie un lien avec le dossier numérique. Tu peux simplement arriver avec ton portable, puis arriver à la cour, puis ta souris, puis checker les pages, puis tout ça. Comme tu peux imprimer le dossier papier, te servir de la formule papier si tu es plus, si tu es plus libre. Moi, je suis porté à aller avec la formule papier. Dans des dossiers, par exemple, de 300 pages, j'aime mieux avoir le papier parce que pour moi, c'est plus facile de télégraphier puis d'avoir accès visuellement à l'information. C'est ma façon de procéder. J'ai 66 ans, je suis plus habitué avec ça. Ça ne m'empêche pas de faire du zoom avec le même dossier, c'est-à-dire que j'ai le dossier papier, mais je suis devant un écran.
Ben oui,
Comprends-tu?
c'est ça.
Alors, il y a bien des façons de procéder, mais l'important, c'est que le juge puis toutes les parties, les avocats, soient sur Zoom puis qu'on puisse. On est plus efficace aussi comme avocat parce que si tu fais 2 heures de cause, après ça, tu peux faire des téléphones, tu peux travailler dans des dossiers. Tu n'es pas obligé d'être pris dans le trafic pendant 3 quarts d'heure puis de te fatiguer dans des déplacements inutiles.
Ouais, voilà. Ah non, c'est un métier, votre métier, là, l'intelligence artificielle va embarquer bientôt, là, vous avez vu ça, ChatGPT, là, à un moment donné, le droit, il va y avoir de l'intelligence artificielle au travers de tout ça, c'est un métier qui va se transformer avec le temps, mais juste vous dire, parce que vous me dites que vous êtes toujours papier, là, moi, quand j'ai la chance de tomber sur un bon vieux journal de Québec papier, là, on dirait que c'est le petit bonheur de ma journée, là. C'est
Ouais, c'est vrai.
le petit bonheur de ma journée. Ah, un journal en couleur. Waouh! C'est de toute beauté.
Ouais, mais que si tu cherches dans un dossier de 1500 pages, tu tapes ta page pour tomber sur la page, je sais
Ouais.
pas moi, 1083. Tu sais, 1083, mais peut-être, tu sais, si tu es sur le document 1083, tu peux accéder au 1084. Tu peux passer vite à la page 882 en faisant une simple bascule dans ton dossier. Moi, je trouve ça plus facile. Mais écoute, éventuellement, il n'y aura plus de papier, là.
Ben ouais, c'est
Moi, je
ça.
m'attends à ce que d'ici 5 ans, là, il y a beaucoup de dossiers de tribunaux, que ce soit virtuel, des clés USB, des transferts de fichiers, mais il n'y aura plus de papier éventuellement. On s'en va vers ça. Comme la monnaie, je suis convaincu, moi, que je sais pas, moi, une génération, peut-être 20-25 ans, la monnaie, ça va disparaître. Il y a beaucoup de commerces qui n'en prendront plus, là.
Ah ben j'ai plus rien de ça, moi. Ça fait des années que j'ai plus d'argent cash dans mes poches, là. Ben, quoi que j'ai toujours un 20$ dans mon auto, là. Mais sinon, j'ai jamais une scène dans mes poches, là. J'ai plus de scène noire, plus de 5 cents, plus de 10 cents. Ça me trouve plus les poches. Ah non, je suis rendu dans le nouvel ère, moi, Maître Bellemare. Tout est numérique.
Bon, mais coudonc,
Ben,
c'est beau,
quand on fait pas
parfait.
de travail au.
Espérons que tu ne sois pas, que tu te feras pas. Comment t'appelles ça, là, quand il dit que tu te fais espionner ou tu te fais infiltrer, là, parce que
Ouais.
c'est toujours un peu la crainte. Moi, quand je vois dans les médias, là, des reportages sur des gens qui ont été hackés, là, puis qui, tu sais, m'a donné, la banque appelle le mardi matin, ah, vous avez acheté une auto de 38 000 piastres, tu sais, puis c'est pas ça, tu sais.
Bon, mais la banque rembourse, là. Je veux dire, ils sont conscients qu'il y a
Ben,
pas
pas tout le
de.
temps. J'ai vu ça il y a pas longtemps, des gens qui ont été arnaqués, là, par des pirates informatiques, puis la banque qui veut pas payer, qui dit c'est pas notre trouble, puis non, non, mais c'est écoute, t'as tué le problème, toi. Hey.
Hey,
En tout
mais.
cas, c'est comme le capharnaüm de la SAC, il y a des gens qui vivent ça dans leur propre compte de banque sur informatique.
Maître Bellemare, dans des dossiers qu'on voulait aborder ce soir, le dossier de nos animaux de compagnie, que ce soit les chats ou les chiens, dans le cas où il y a des séparations, je pense que depuis la nuit des temps, on s'est toujours organisé avec le conjoint, la conjointe, en disant, ben, regarde, moi, je m'en suis toujours occupé, tu t'en es toujours un peu foutu. Tu peux garder le chien. Là, ce que moi j'ai vu il y a de ça quelques années, mon chum Danny qui travaille sur Pierre Bertrand, lui s'est marié pendant un an, ils ont adopté un chat et il y a eu une pension alimentaire à payer pendant, je pense, 7 ou 8 mois, 14 $ par mois de pension alimentaire pour le chat, pour sa nourriture. Comment ça fonctionne quand on se sépare? Le chien va où? Est-ce que les propriétaires peuvent garder des droits de visite? Ça fonctionne comment?
Ouais, c'est ça, c'est un jugement récent qui est sorti il y a quelques semaines de la Cour supérieure. C'est que le couple avait trois chiens, OK? Et bon, alors si tu as trois enfants, ben tu peux dire, moi je garde les enfants, puis l'autre va avoir un droit de visite ou de sortie des enfants. C'est classique, trois enfants, deux enfants, la mère garde les enfants ou il y a une garde partagée, 50-50, où la mère garde les enfants, le père peut accéder aux enfants une fin de semaine sur deux, sortie, visite à des endroits précis.
Oui, mais là, c'est
Bon, le
complexe.
juge détermine,
Oui.
tu vas voir les enfants à tous les temps de jour, tout le temps de fin de semaine, de telle heure à telle heure. C'est
C'est
marqué
ça.
dans le jugement où il y a une entente qui est entérinée par le tribunal.
Oui, mais là, dans ce dossier-là, c'est un peu plus complexe parce qu'on n'a pas le droit de nommer qui est le propriétaire de ces chiens-là. Mais le gars est un joueur de hockey qui a trois chiens. Sa conjointe habite à Québec. Lui, il joue aux États-Unis. Puis de faire une garde partagée, c'est extrêmement complexe, là.
Oui, c'est ça, parce que pour les chiens, ça ne s'applique pas. Pourquoi? Parce que les chiens ne sont pas des enfants. Les chiens sont des meubles au sens de la loi. Un meuble, c'est comme une TV, une coutellerie, un tableau, je sais pas moi, une lampe. OK? Ça, c'est un meuble. Tout ce qui n'est pas immeuble, tout ce qui n'est pas fixé à fer et à clous au mur, comme une porte ou comme un cadre ou comme quelque chose qui est vraiment fixé, est un meuble, est un bien meuble. Les biens meubles, on les partage. Alors, toi, tu vas avoir la coutellerie, moi, je vais avoir la lingerie, toi, tu vas avoir la laveuse, moi, je vais avoir la sécheuse, on sépare les meubles. Les chiens sont des meubles. Alors, dans l'affaire en question, le père voulait avoir un droit de visite des chiens. Il disait, oui, le chien va être à telle personne, à ma femme, par exemple. Mais moi, je vais avoir le droit de voir les chiens une fin de semaine sur deux, ou quand je reviens des États-Unis, je vais avoir le droit de voir les chiens. Le juge a dit, je n'ai pas la compétence. Compétence au sens du pouvoir d'agir, la juridiction. Je n'ai pas la compétence pour trancher cette question et accorder un droit de sortie ou un droit de visite pour un chien à l'un ou l'autre des conjoints. Entendez-vous à savoir à qui appartient le chien? Ou bien deux à un, puis un à l'autre. Mais il n'est pas question de donner, une fois que le chien est donné par le biais de la convention matrimoniale à tel ou tel conjoint, que l'autre conjoint ait des droits d'accès aux visites. La loi ne me permet pas d'accorder ce genre de droit. Alors le juge a décliné juridiction, puis il a dit, je n'ai pas le pouvoir de trancher parce que la loi ne me permet pas de le faire. La loi me permet de dire, le chien va aller ou les chiens vont aller à tel conjoint. Mais une fois qu'il est rendu à tel conjoint, c'est bien l'autre qui va décider si ça y tente de te permettre de voir le chien, parce que moi, je ne peux pas lui ordonner de te laisser accès au chien à tel ou tel moment de la semaine ou de la journée.
Il y en a qui ont des vies moins dures que la mienne, parce que moi, je peux vous dire que ça serait pas compliqué, là. Tu le
Non, mais je
veux-tu?
pense qu'il faut
OK, je vais
s'entendre.
faire
Le
mon
juge ne dit pas
deuil.
qu'il n'y a pas d'entente possible,
Bon, mais c'est des gens qui
mais il ne
sont de
peut pas
mauvaise.
l'imposer.
Mais dans les deux cas, le juge a constaté qu'il y avait un peu de mauvaise foi. Puis là, madame est allée chercher l'avocate la plus pet lover du Québec. Elle est allée chercher Anne-France Goldwater. Je veux dire, Anne-France Goldwater, elle laissera pas les chiens aller avec monsieur, là. J'en suis persuadé. Elle va se
Ben
battre
moi,
jusqu'à ses dernières
j'ai
ressources.
déjà eu dans ma famille une fille qui vivait avec son chum et il y avait un chien.
Ouais.
Et la fille était très attachée au chien. Et
Oui.
ça a été très difficile. C'était à un moment donné plus difficile de se séparer du chien que de se séparer du conjoint.
C'est un deuil. Ben, c'est
Il y a un deuil, il y a un deuil important. Et cette personne-là a eu beaucoup de peine. Et ben, c'est ça. Alors, entendez-vous où ira le chien, puis essayez peut-être de faire un accommodement. C'est sûr que tu peux faire, il n'y a rien qui t'empêche de faire un papier pour dire, moi, je vais avoir le chien, mais je vais te permettre de promener le chien trois soirs par semaine pendant 2 heures,
Ouais.
quelque chose du genre.
Mais ça peut pas
Ça
se
peut se
faire.
faire.
Mais pas dans ce
Ça serait
cas-là.
parfaitement légal, mais tu peux pas, le juge ne peut pas l'imposer dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce.
Ouais, puis dans ce cas-là, je veux dire, il se promène à travers les États-Unis puis le Canada. Je veux dire, il a pas le temps de s'occuper de ses chiens, là. Mais je pense que, tu sais, au-delà de ça, il y a quelque chose de plus que uniquement l'amour des chiens. Des fois, c'est. Tu sais, moi, pour
Ouais.
parler avec un notaire, le notaire m'avait dit, Yann, des fois, il y a des familles qui se déchirent pour 75$.
Ouais.
Tu sais,
Ah ouais, moins que ça des fois.
ben, c'est ça. Tu sais, des
Mais
fois,
tu sais, quand la marde est pognée, comme on dit, quand la chicane est pognée, solide, on a peine à croire le genre de situation. Moi, j'ai fait du divorce, là, je te dirais, j'ai commencé à pratiquer en 79. J'ai fait du divorce à peu près jusqu'en 90, pendant à peu près une dizaine d'années. Puis après 10 ans, là, j'étais vraiment écœuré parce que je me disais, de un client satisfait en divorce, ça n'existe pas. Puis dans une séparation, il y a tellement d'émotivité que tu représentes la mère, tu représentes le père, mais tout le monde est satisfait, tout le monde est malheureux. Il y a une peine, il y a une détresse psychologique, même pour le conjoint qui prend la décision. C'est pas facile, une séparation. Tu as vécu avec quelqu'un pendant 5, 10, 15, 20 ans. À un moment donné, il y a une séparation. C'est une réorganisation importante. Il y a des souvenirs heureux qui sont associés à ça, d'autres qui sont malheureux. Mais il n'y a pas de bonheur à se séparer, jamais. Là.
Ben non, c'est
alors,
ça.
Puis tu as des gens qui sont malheureux, qui sont obligés de payer des avocats. Ils reviennent en cours, puis là, ils se regardent, puis là, la chicane prend, puis l'amour, la haine, on sait, hein, ça bascule vite, la ligne est assez mince. Hein. Alors, ça fait des gens malheureux, puis ça, ils ont de la difficulté à séparer le patrimoine, puis la garde des enfants, tout devient compliqué, et puis on a l'impression de jouer dans le même film tout le temps. Mais l'histoire du chien, là, pour le joueur de hockey, là, la seule façon pour lui d'avoir les chiens, c'est d'abord de s'entendre avec sa conjointe, puis de dire, moi, je garde les chiens, puis toi, tu vas garder quelque chose d'équivalent. Puis de récupérer les chiens, puis de les faire garder. Non, non, mais tu sais, les faire garder, ou bien non, d'y acheter trois autres chiens à elle, puis de négocier pour les avoir, s'ils les aiment tant que ça, puis de les faire garder le temps qu'il n'est pas là, parce que elle n'est pas obligée, si elle les a, de lui donner un droit d'accès.
Oui, mais on va sortir de cette cause-là particulièrement, là, dans certains cas. Quand il s'agit de quelqu'un qui a très peu de moyens versus quelqu'un qui a énormément de moyens, avoir un levier supplémentaire pour soutirer peut-être un certain montant, ça peut être très intéressant pour ces gens-là. Ce qui fait en sorte que ce levier-là, ben, on peut essayer de peser le plus possible dessus pour essayer d'avoir de l'argent, mais ça n'a pas rapport avec la situation que je vous parle là présentement. Maître Bellemare, on va terminer avec ça. On essaie tout de s'amuser en ce lundi soir où on parle d'histoire triste, parce que là, j'ai une histoire particulière qu'on a probablement toutes déjà vues de nos yeux vus, là, si on a fait le tour des arénas du Québec, où j'ai des histoires de femmes qui exploitent sexuellement des individus, dont des enfants. On y va avec le hockey?
Oui.
OK. La semaine dernière, je pense que c'est vendredi, vendredi, sous la plume d'Olivier Fauché, une dame du nom de Caroline Burns qui dit avoir été radiée du hockey mineur de Saint-Jérôme parce que, bon, on lui donne plus accès aux arénas de ce secteur-là et elle aurait eu des chicanes avec un entraîneur. Et là, ben, Hockey Québec, c'est venu aux oreilles d'Hockey Québec, puis qui disent, attendez un peu, là, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Elle se plaint. Je pense qu'en 2023, c'est tolérance zéro envers des parents qui chiolent après les arbitres, qui chiolent après les entraîneurs, qui chiolent après les autres personnes qui sont sur le jeu pour essayer de leur mettre de la pression. Surtout quand il s'agit de bambins. Là, je comprends que quand vous êtes dans la NHL, là, c'est un peu comme la lutte. Là, tu peux essayer de te défouler, puis les gars qui jouent sur la glace, c'est des hommes. Mais des enfants, entendre une bonne femme ou un bonhomme crier à toute tête après des enfants... Je trouve tellement que ça a pu... Ça, ben en fait, ça n'a jamais eu place, mais aujourd'hui, c'est rendu intolérable. Moi, c'est merci, bonsoir, tu t'en vas chez vous, puis tu n'as plus accès à l'aréna.
Oui, je suis d'accord avec ça. Puis moi, cette Madame Byrne-là, là, j'ai lu son histoire dans le Journal de Québec. Je n'ai pas une grosse sympathie pour elle. Honnêtement, moi, j'ai fait du hockey mineur pendant 25 ans. J'ai 4 enfants sur 5 qui en ont fait de façon assez sérieuse, 2 filles, 2 gars. Et des parents qui crient, puis qui bug, puis qui engueulent, puis des fanatiques, là, je suis juste plus capable, là. J'en ai vu toute ma vie. Et on essayait de neutraliser. Puis quand je faisais du coaching, puis quand j'étais gérant de l'équipe, c'est moi qui s'occupais un peu d'intervenir auprès des parents dans ces situations-là. Mais c'est vraiment une plaie. Et moi, je pense que les associations de hockey ont une responsabilité de neutraliser ces gens-là, puis de les amener à ne plus assister à des matchs ici. Moi, je n'étais pas là, je n'ai pas vu la situation, je n'étais pas assis à côté de Mme Byrne, là, mais je comprends l'association. Puis dans certains cas, le problème, c'est que tu veux protéger ton sport. Tu veux que les parents aient du fun. On veut que le hockey survive au Québec. On veut des games. On veut des tournois où on a du fun. On veut des jeunes qui s'accomplissent. On veut des jeunes qui vont grandir dans ce sport-là puis qui vont éventuellement jouer dans la Ligue nationale, dans les plus grandes ligues du monde. Puis là, on est en train de tuer notre sport. On le tue tranquillement, pas vite, avec des parents qui crient tout le temps, qui fait en sorte que les autres parents, avant de s'inscrire, tu sais, si tu es dans le novice, là, puis tu as un petit bout de 7 ou 8 ans qui joue, là, puis le sport est violent, tu as des parents qui crient, là, l'année prochaine, tu vas faire du basket ou tu vas faire du soccer, là, tu ne feras plus de hockey. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, on est en déclin, et c'est très palpable au Québec. le déclin du hockey. Ce n'est pas juste l'intimidation et les commissions parlementaires avec Gilles Courteau qui dit n'importe quoi, là, qui vont changer la face du sport. Mais cette année, au match des Étoiles, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais il paraît que c'est la première saison depuis la naissance de la Ligue nationale où il n'y avait pas de Québécois dans les équipes. Il y avait Suzuki qui représentait le Canadien, mais ce n'est pas un Québécois.
Ouais.
Alors, tu sais, il n'y avait pas de Québécois cette année dans la Ligue au match des Étoiles. Alors, il y a de moins en moins de Québécois dans la Ligue nationale. On a de la misère avec notre sport, mais ça, il faut s'attaquer à ces parents-là qui font des niaiseries, puis qui menacent les arbitres, qui menacent les joueurs. Puis là, je ne sais pas, là, moi, ce qu'on racontait dans l'article, c'est que le petit gars, le fils de madame, il s'est présenté dans le vestiaire et il disait « Mes collègues de jeu, ils valent pas de la merde ou je sais pas trop. » Il dénigrait les jeunes joueurs avec qui il jouait.
Ouais, puis le coach
c'est
fâché.
Là que le coach le met à sa place. Mais là, moi, j'ai vu ça, ces situations-là.
Puis là, la mère a tapé...
Moi-même, je suis intervenu face à ces jeunes-là, puis il faut le faire.
La mère a tapé sur le coach. Elle comprend pas pourquoi elle s'est fait crisser dehors.
Ouais. Elle a reconnu qu'elle avait fait preuve de violence physique.
Ouais.
Non, mais c'est n'importe quoi. On n'a pas besoin de ces gens-là. Là.
Ben
c'est des gens qui sont problématiques. Puis encore là, je ne connais pas l'histoire en détail, puis je n'étais pas là, assis à côté d'elle à l'aréna. Mais si ce qu'on dit d'elle est exact, je pense qu'il est de la responsabilité des officiers, des gérants de l'équipe, la ligue en question dans laquelle opère le petit gars, de s'assurer que la mère va être neutralisée. Ça ne veut pas dire que le petit gars ne peut pas jouer, mais il mériterait d'être sanctionné d'abord pour les mots qu'il a prononcés, ou d'être benché, ou je ne sais pas, qu'il y a une sanction, qu'il y a une conséquence à ça. Mais d'empêcher la mère d'accéder au jeu, à l'aréna, je pense que c'est tout à fait normal. Le problème, ce n'est pas le petit gars, c'est la mère. Puis souvent, c'est ça qui se produit. Ce n'est pas l'enfant le problème. Bien souvent, c'est le parent qui est trop émotif, qui a de la misère à contrôler ses hormones.
Ah, il y en a-tu des histoires? On n'a pas
mais
fini.
Mais t'en as vu, toi aussi, des parents comme ça, là? Il y en a, puis c'est pas une invention, là.
Quand j'étais jeune, c'était pas rare de voir des bagarres de parents dans les estrades. Là, moi, personnellement, j'étais avec mes gars. Mon plus vieux a 9 ans, l'autre a 7 ans. Ça se passe bien dans les arénas. J'ai vu un entraîneur qui a gueulé sur la patinoire après un joueur de l'équipe adverse, parce que le joueur de l'équipe adverse, on parle d'enfant de 6 ans en passant, le joueur de l'équipe adverse a fait tomber un autre joueur, puis là, l'entraîneur qui était sur la glace, qui essayait de superviser tout ça, pendant que l'autre enfant allait s'excuser, l'entraîneur il a dit « Pourquoi t'as fait ça, tabarnak? » Ça, c'est le pire que j'ai vu depuis que j'ai commencé, moi, à suivre mes gars dans les arénas.
Ah oui, c'est ça. Alors, mais je pense qu'on a une responsabilité. Puis je te le dis de façon plus générale, moi, je suis un grand amateur de hockey et on a un sport national. Les Québécois, on a été longtemps à dominer littéralement cette ligue-là, la Ligue nationale. On avait, puis le Canadien de Montréal, tu avais une coupe d'anglophones, mais c'était tous des francophones, des Richards, les Béliveaux, les Geoffrion, puis tout ça. Mais là, c'est plus ça. Là, écoute, il n'y a plus de Québécois dans le hockey professionnel. C'est dramatique. Pourquoi? Entre autres pour ça. La violence, les bagarres, les parents qui font des conneries, l'intimidation, puis on est en train de brûler notre sport national, puis on parle de la langue française, puis on parle de toutes les lois identitaires au Québec, mais on a un sport identitaire au Québec, ça s'appelle le hockey, puis on est rendu quasiment comme les ligues de baseball, tu sais, dans le temps des expos, là, il y avait pas de Québécois dans le club. On allait voir des Portoricains puis des Cubains, c'était correct, mais là, on est rendu un peu comme ça. On va voir des gens qui n'ont pas été formés dans le hockey du Québec parce qu'on n'est plus capable de former des joueurs. Puis je pense que ça, c'est une des causes de l'effondrement du hockey dans les arénas du Québec. Et c'est peut-être pas la seule, mais il faut s'y attarder. Puis je pense que dans ce cas-là, Mme Byrne, elle n'a pas mon support, puis elle n'a pas ma sympathie.
Non, elle l'aura pas. Maître Bellemare, un excellent lundi soir. Ça a été un plaisir pour les auditeurs qui veulent avoir des informations sur leur dossier qui traîne à la SAAC, à l'IVAC, à la CNSST. Ils peuvent vous contacter chez bellemareavocat.ca.
Tout à fait, ça va me faire plaisir.
Passez un beau lundi soir, Maître Bellemare.
Merci, bonne semaine.
Bye-bye.
Bye-bye.
Marceau, le soir.
Bonjour. Leclerc Communication recherche un développeur PHP. Pas besoin d'avoir une voix de radio. La preuve, je travaille pour la radio, mais je parle pas à la radio. Sauf là. Bref, on cherche un développeur. Tu connais Cake PHP et tu as quelques heures pour nous? Postule la carrière avec un S, @leclercommunication.ca.
Saviez-vous que Mazda est la marque la plus récompensée de l'histoire de l'Association des journalistes automobiles du Canada? Eh oui! Que l'on parle d'innovation, de performance, de sécurité, de qualité de fabrication ou de passion de conduire. Les experts ont fait leur choix. Il ne vous reste plus qu'à faire le vôtre. En plus, vous profitez de la garantie Mazda, la seule garantie à kilométrage illimité au pays. Laissez-vous séduire par la marque la plus récompensée par la JAC et passez chez votre concessionnaire Mazda dès aujourd'hui.
Vous vous distinguez par la qualité de votre travail? Chez Revêtement RBR aussi, et on est à la recherche d'une personne comme vous. Menuisier ou ferblantier, joignez-vous à notre équipe d'installateurs de revêtements extérieurs. Des mandats motivants, on en a chez Revêtement RBR. Vous aurez l'occasion de travailler sur des projets commerciaux, industriels et institutionnels d'envergure tels que le centre de glace Intact Assurance. Postulez maintenant au rbrinc.ca. Voyez nos réalisations en ligne ou suivez Revêtement RBR sur Facebook.
Vous voulez vendre votre maison? Simon Labelle. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com, courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Est-ce que ça vous arrive d'avoir mal à quelque part, de googler vos symptômes juste pour voir et vous rendre compte que ça finit jamais bien comme recherche? Ben avec mon amie la docteure Élise Berger-Pelletier, je veux démystifier des sujets de la médecine sans prétention. Vous allez voir, ça peut être vraiment le fun de parler de santé.
Il était une fois la santé. Une production Boulevard 102.1. À écouter en ondes tous les mardis dès 19h et sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et le BLVD.fr.
Une présentation du Dr Steve Bernier, spécialiste et expert en implants dentaires. Les implants dentaires sont le moyen le plus simple et durable pour remplacer les dents manquantes. Situé à seulement quelques minutes des ponts à Lévis, consultez le Dr stevebernier.com pour plus de détails.
Les camions RAM sont arrivés chez Capital Chrysler, le fameux pick-up RAM à partir de seulement $49,995. Disponible pour livraison immédiate. Taux de financement à partir de 1,99%. CapitalChrysler.com. Rue Marais, ouvert le samedi.
C'est encore moi. Si tu connais un développeur PHP pigiste qui pourrait nous aider à mettre nos sites web à jour chez Leclerc Communication, on est preneur. Pas besoin d'avoir une belle voix radiophonique. Oh non! Bien connaître Cake PHP, c'est parfait. Postule la carrière avec un S, @leclercommunication.ca.
Boulevard 102, 100% Québec. On vit pour le rock. Boulevard.
Une propriété. Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Alors voilà, c'est ainsi que se termine ce lundi 13 mars. Pour moi, ça a été un plaisir d'être avec vous et Maître Bellemare, même chose. Donc, je vous souhaite de passer une belle fin de soirée. Les podcasts s'en viennent dans les prochaines minutes. Et sinon, ben, on se retrouve, nous, demain à 11h30 pour ce qui est de Marceau le midi ou encore vers les entours de 6h avec l'excellent Reg Laplanche et Reg Against le matin avec Pascal CV et Max. Donc, je vous dis salut puis à demain, 11h30. Ciao!
Marceau, le soir. Le soir.
Groupe Patrimoine a créé pour vous ses premiers condos locatifs dédiés aux 55 ans et plus. Les appartements, le Jules Verne, la vraie vie. Vous recherchez un environnement qui vous permet de profiter pleinement de la liberté? Découvrez les appartements le Jules Verne à l'ancienne Lorette. Vous serez séduit par la piscine intérieure sur le toit, les chalets urbains et votre futur condo locatif. Ouverture en juillet. Promotion en cours? Appelez-nous au 88 440 8377. Lejulesverne.ca.
Trouvez
Trouve ton emploi à temps plein ou à temps partiel à la journée emploi du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Samedi 18 mars, viens nous rencontrer à l'Hôtel Dieu de Lévis entre 9h et 14h. C'est simple, apporte ton CV et pose tes questions à nos recruteurs. Tu pourras même visiter l'hôpital. On recherche des préposés au pavillon, à l'entretien ménager, à l'alimentation, des agents administratifs, des techniciens et professionnels en santé et services sociaux dans toutes nos installations. Visite monemploiensante.ca.
Les rabais du salon se poursuivent chez Enviro-Confort. Épargnez 300$ sur nos climatiseurs, 500$ sur nos thermopompes et 1000$ sur nos systèmes centraux. Et tout ça en plus des subventions. Profitez-en, offre disponible jusqu'au 31 mars. Enviro-Confort.com.
Boulevard 102.1. On est capable de vous parler de presque tout.
Je voulais y aller avec quelques conseils de base d'usage. Mangez pas des Tide Pods. Deuxième recommandation, faites pas cuire votre poulet dans du sirop contre le rhume.
Le NyQuil.
Faites pas ça. Pour le reste, on s'est entouré de pros qui connaissent leur affaire.
Notre ami François Bourque du Soleil est avec nous autres.
Antonine Iaccarini, elle est au bout du fil.
Hey Des, c'est un plaisir de te retrouver. C'est un peu ça qu'on va aborder aujourd'hui avec la psychiatre Caroline Gagnon.
Boulevard 102.1.
102.1.
C'est plus que du rock.
Évitez les files d'attente et adoptez SaaClic, le nouveau portail de services en ligne de la Société de l'assurance automobile du Québec, en vous créant un compte au service d'authentification gouvernementale. C'est plus simple que vous ne le pensez. Pour en savoir plus, consultez québec.ca/authentification-gouvernementale ou appelez au 1-877-644-4545 afin d'obtenir de l'assistance pour la création de votre compte. Un message du gouvernement du Québec.
Notre station Boulevard 102.1, qui porte les lettres d'appel CFL-FM et diffuse sur la fréquence 102.1 FM, procède actuellement à des tests de mise en onde à partir de son nouveau site d'émetteur situé au Mont-Bélair. Si vous éprouvez du brouillage en lien avec notre signal, nous vous invitons à signaler l'endroit problématique en nous laissant votre adresse ou code postal à l'adresse signal@blvd.fm ou à communiquer avec nous au 418-529-1021, poste 8444. Merci de votre collaboration. Un message de Boulevard 102.1, une propriété Leclerc Communication.
Ici, une radio parlée voulait informer plutôt que désinformer. Ici, une radio parlée voulait divertir plutôt que de chialer. Ici, une radio parlée voulait rassembler plutôt que diviser. Ici, une radio parlée voulait aussi jouer le meilleur rock.
Ben là, ça serait plus une radio parlée.
Ben oui, mais avec du rock.
Ben là, ça serait la radio parfaite.
Ben, c'est ça. Boulevard 102.1, la radio parlée qui joue aussi du rock. Yeah!
Boulevard 102.1.
Il y en a qui sont scandaleux. Il y en a qui se retrouvent sur des sites louches. Il y en a qui sont très attendus. Puis il y en a d'autres que tu veux pas voir.
Maman, c'est quoi qui est sur cette cassette-là?
Oh non!
Le nôtre commence maintenant. Voici Sextape, le podcast avec Audrey Pinchot.
Présenté par les boutiques érotiques au 7e ciel qui, tout comme notre podcast, s'invite dans votre intimité pour votre plaisir. Marché Jean Talon, 911 Charest-Ouest au 7e ciel.com.
Bienvenue officiellement à un autre épisode de Sextape. Le sextape d'aujourd'hui m'enchante énormément parce que c'est une invitée qui a pas la langue dans sa poche, qui a des choses à raconter. J'ai connu Claudia Duchesne, elle avait ses deux jambes, elle marchait, elle vivait une vie, je vais dire, normale, entre guillemets. Accident médical rapidement expliqué. Elle est maintenant en chaise roulante, paraplégique. Puis là, ben, ça amène plein de questions au niveau sexuel parce que c'est quoi le sexe quand t'as plus tes parties génitales? Comment ça marche sans organes génitaux? C'est comme... Il y a beaucoup de questions à se poser là-dedans. Mais pour commencer, je vais prendre le temps de saluer le 7e ciel parce que c'est la référence en jouets sexuels à Québec. Puis c'est eux qui commanditent le podcast Sextape. D'ailleurs, je commence justement ce podcast-là en vous parlant du fameux Womanizer. Pour ceux qui sont sur le visuel... Je l'ai avec moi en studio. C'est tout qu'un jouet quand même, là. On parle de plaisir féminin aujourd'hui parce qu'il faut dire que le 7e ciel a la plus grande variété de produits pour tous les goûts, mais aussi pour tous les budgets parce qu'on n'a pas toutes 300 pièces à mettre sur un jouet. Les marques les plus populaires, on les a et le Womanizer en fait partie. Que c'est ça, le Womanizer, c'est le produit le plus vendu dans les 6 dernières années au 7e ciel. C'est l'objet le plus populaire aussi, il faut dire, là, dans le monde pour le plaisir féminin. Et j'ai le classique avec moi en ce moment qu'on appelle le Marilyn Monroe. Il est à 150 $. Fait qu'on est au centre de la gamme. On peut dire que, justement, il y a question d'avoir un peu plus accessible. Il y en a pour tous les prix, tous les modèles, toutes les couleurs. Il y a moyen d'avoir du fun pour pas cher. C'est ce qu'il faut retenir. Et il y a une garantie de 5 ans sur ce produit-là. Qu'est-ce que ça fait, le Womanizer, pour ceux qui connaissent pas? C'est un stimulateur clitoridien avec 10 niveaux d'intensité différentes. C'est de la pression par air, en fait. Et on dit, paraît-il, qu'il y a un orgasme possible en moins de 1 minute, mesdames, si jamais. Je commence à me dire qu'il faudrait que je m'en achète un. Toutes mes chums de filles me disent qu'ils en ont un et que ça vaut vraiment de l'or. Donc, Womanizer, le 7e ciel qui a 2 adresses pour vous servir, le 911 Charest-Ouest, marché Jean Talon de Charlesbourg, au 7e ciel.com. Claudia Duchesne, santé! Fraîchement arrivée du Saguenay, comment vas-tu?
Ça va bien, et toi?
Ça va super bien, je suis tellement contente que tu sois là. On s'est rencontrés, nous autres, il y a 6-7 ans déjà, je pense que c'était en 2015.
Oui, la belle année que tu faisais en TM.
Mes débuts d'études, oui. Oui, à Jonquière, des grosses années. On était aux résidences, je me souviens, amis d'un ami. Hein, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis ben, ta vie a pas mal basculé depuis. Oui. Avant qu'on parle vraiment là, de l'incident qui t'a mené à avoir la vie que tu as aujourd'hui, je vais l'appeler comme ça, même si ça sonne bien tragique. Oui. Là. J'aimerais que tu me parles de... c'était qui Claudia comme femme, mettons, avant cet événement-là? Parce qu'aujourd'hui, tu es en chaise roulante, ça te change un quotidien, on va se le dire.
Oui, ouais, ça, ça modifie quelques habitudes de vie, disons ça comme ça. Ben, je pense que la Claudia Duchesne avant le fauteuil roulant est un peu la même Claudia Duchesne que j'étais en fauteuil roulant, mais je me donnais moins le droit de l'être. Le fauteuil est vraiment, on va dire, un laisser-passer pour être 100% Claudia. Et je pense qu'avant, j'étais à peu près la même personne, mais j'avais fait moins de travail sur moi, ben j'avais moins le temps de masser.
C'est excitant.
Même le temps de masser puis de penser à ma vie.
Je comprends.
Fait que, mais tu sais, j'étais quelqu'un qui aimait ça faire de l'introspection, rêver grand. Mais avant, je pensais que mes rêves allaient rester des rêves. Puis je pense que le fauteuil roulant a amené une perception différente que mes rêves peuvent se réaliser. J'étais quelqu'un qui était show-off, mais qui n'osait pas être show-off, qui essayait plus de se conformer un peu à ce que la société voulait d'elle.
Dans l'apparence?
Dans le moule, là. Un job de 8 à 5, un bon fonds de pension, nanana. Parce que moi, au début, j'avais plusieurs travails, mais là, on me disait que c'était pas ça, la vie. Travailler dans une maison de jeunes jusqu'à 11h le soir, un vendredi soir, puis jouer à Just Dance, c'était pas ça un vrai travail. Tu sais, jongler entre plusieurs tâches et tout ça. Fait que j'ai essayé plus de me conformer à ce que les gens me disaient, à avoir un vrai travail. Et aussi, ben au niveau sexuel aussi, dans le fond, parce que... ben moi, j'ai 35 ans. Fait que là, on en retombe dans les années 2010 à... Bon, on va dire, mettons, 2005 à 2015.
À peu près.
15, t'sais, ces 10 ans-là. Fait qu'à cette époque-là, ben la sexualité de la femme était... Ben, je ne sais pas c'est quoi la sexualité de la femme de 20 ans.
Différente, peut-être différente aujourd'hui. Je pense que c'est plus assumé.
Oui,
là.
C'est ça. C'était moins bien vu, on va dire, une femme sociale, avec un vagin socialement très...
Puis t'étais comment sexuellement, toi, dans le temps? T'étais-tu très assumée?
J'étais quand même pas pire assumée. Mais on va dire, il y a tout le temps une petite cochonne dans la gang, c'était moi. C'était
moi la... J'aime ça, ça s'assume, OK.
C'était moi, c'était tout le temps elle, tu sais, qu'on va faire des jokes, là, Claudia accouche facilement, c'était tout le temps moi, la fille de cette gang-là, peu importe dans la gang que je finissais par me ramasser. Et ben c'est le fun, ça, tu sais, ça paraît funny, puis tout ça, mais je pense que le discours était moins... c'est une femme à marier, on va dire, entre guillemets.
Non, mais oui, on entend beaucoup le « respecte-toi, oui. C'est important, réserve-toi ». Toi, oui. T'avais moins ce côté-là, mais j'imagine qu'aujourd'hui, tu le regrettes pas.
Non, ben tu sais, je le regrette quasiment de pas l'avoir assumé autant, parce qu'il y a quand même des fois que j'écoutais, tu sais, le body count, là, c'était pas ça qu'on... Nous autres, on appelait ça le numéro, la liste, peu importe.
Donc,
là.
De compter tes conquêtes.
Ouais, fait tu sais, là, finalement, je couchais avec un que finalement, c'était pas ce qu'on pensait de chacun de notre bar. Puis là, tu dis, ah, je veux dire que j'ai augmenté ma liste pour ça. Puis là, de me flageller.
Tu culpabilisais un peu, finalement.
Ouais, je culpabilisais que mon vagin soit social.
Et finalement, tu
Et finalement, avoir su qu'à 28 ans, j'arrêtais de le le sentir, il aurait été social. Là, il aurait swipé Tinder une couple de fois que je swipais pas. Puis j'étais comme, ah, mais non, là, parce que c'est pas beau. Puis tu sais, je sais pas encore, le discours, c'est autant d'actualité, mais je pense quand même que oui.
Ouais. C'est un beau message de défense, je trouve. Puis là, mettons qu'on parle de l'accident, parce que là, bon, nous, on se connaît un peu, oui. Mais il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont aucune idée ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 ans?
Oui, en gros, moi, j'ai une maladie de naissance qui est une maladie très rare qui s'appelle la maladie de Ollier. Je fais des excroissances osseuses multiples. Mes os font comme des petits bourgeons. Je trouve ça beau.
Ah, c'est cute.
Des petits bourgeons au printemps.
Okay. Fait que ça fait quoi, ça, techniquement?
Fait que ça, toute ma vie, tu sais, on m'a ouvert.
Littéralement.
On m'a ouvert, on m'a scié des os, on a recousu. Puis dans de très, très rares cas, il y a un risque de développer un cancer dans un petit bourgeon osseux. Puis moi, c'est ce qui est arrivé en 2016. J'ai reçu un diagnostic de cancer sur une excroissance osseuse qui était collée à sa colonne vertébrale. Elle faisait 16 cm. Puis comme moi, j'ai passé ma vie à me faire opérer puis enlever des os, ça, c'est la première fois que ça arrivait dans le dos quand même. Et la personne qui... c'était un petit cancer. Là. J'ai reçu un diagnostic de cancer, mais tu sais, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir un gentil cancer qu'on appelle. Fait que j'ai pas fait de chimio, j'ai pas fait tous les traitements. Ça faisait juste se retirer par une opération. Puis comme moi, j'ai passé ma vie à me faire opérer des os, puis la personne qui m'opérait passe sa vie à opérer des os. Bon fit, bon swipe
Tinder. Pas trop inquiète.
Bon swipe Tinder, tout le monde, ça allait bien. Fait qu'on n'était pas trop stressés. Et finalement, le 6 avril 2016, c'était la journée de l'opération pour retirer le cancer, qui était quand même une plus grosse chirurgie que d'habitude, parce qu'il y avait une grève osseuse qui devait se faire et tout. Et... il y a eu des complications sur la table d'opération. Là, c'est très grossièrement expliqué. Là. On s'excuse à tous les chirurgiens qui écoutent.
Non, mais
pas chirurgienne.
Faut le vulgariser. Là.
Mais en gros, quand il y a un cancer, pour l'enlever, il faut comme qu'ils contournent tout le cancer pour le retirer. Ils peuvent, parce que s'ils touchent le cancer en le retirant, ça peut se propager. Là,
OK. Genre,
fait que en contournant et en essayant de retirer le cancer, en tirant dessus, là, c'est vraiment vulgarisé, il y a eu une hémorragie. Puis il a fallu qu'ils me fassent une transfusion de 10,5 litres de sang.
Aïe, aïe.
Ce qui est énorme parce que le corps en contient 5 environ. Oui. Fait que à ce moment-là, le 6 avril 2016, ma moelle épinière manquait de sang. Et en fait, comme, c'est assez.
Est-ce que tu avais des peurs par rapport à ça? Est-ce qu'on t'avait averti que c'était une possibilité, en fait, par rapport à l'opération?
Non, pas nécessairement. C'était une chirurgie quand même à haut... C'était un haut risque, mais c'était comme n'importe quelle chirurgie. Il n'y avait pas plus de risque. Tout le monde était très confiant. Finalement, il y avait dans l'os, il y avait comme une veine. Mais... je faisais des blagues avec ça parce qu'on m'avait dit que j'allais arrêter de sentir ma hanche droite, puis j'allais plus être capable de croiser ma jambe droite sur ma jambe gauche.
OK.
T'as pas menti.
Visiblement.
Visiblement, t'as pas menti. Les pronostics sont excellents. Fait que non, c'est vraiment une complication. Fait que là,
t'as l'opération, tu te réveilles. Comment tu t'en rends compte? Qu'est-ce qui se passe? T'ouvres les yeux, toi, là.
Oui, j'ouvre les yeux. Dans le fond, il y a plein de cues dans cette histoire-là. La fin de semaine avant, mon opération, c'était mercredi, puis la fin de semaine avant, ça a donné que dernière minute, on s'est ramassé dans la famille du côté à mon conjoint et on a été hébergés dans sa famille. Il y a un oncle qui a un paraplégie, qui a aussi une lésion à moelle. Puis on a passé la fin de semaine avec. Puis moi, le vendredi avant mon opération, j'ai eu une grosse angoisse. J'étais sûre que j'allais perdre mes jambes.
Mais voyons, toi, t'avais un feeling. Là.
Je sais pas pourquoi. J'étais sûre j'allais perdre mes jambes. J'étais couchée dans mon bain, puis je pleurais, je me touchais les jambes. Puis moi, j'avais une passion. Je venais de me découvrir une passion. C'était les courses obstacles, puis j'étais là. Puis je dis j'avais une passion, les courses obstacles. C'était les hommes en torse dans les courses obstacles.
Les priorités, hein?
Principalement les hommes en torse dans les courses obstacles. Par chance, il y a des hommes en torse partout.
Fait que là, t'avais une impression
que j'allais perdre mes jambes. Fait que là, on a passé la fin de semaine finalement avec mon chum qui était en fauteuil roulant. Puis ça m'a vraiment apaisée. Je suis partie de là vraiment légère. Puis il nous a conté son histoire. Puis il a dit, il y a deux cellules qui ne se régénèrent pas dans la vie, le cerveau et la moelle épinière. À travers son histoire qu'il nous a conté. Fait que moi, quand je me suis réveillée, je me suis réveillée intubée, puis j'ai comme eu le réflexe de vouloir me mettre en petit bonhomme, qu'on va dire, puis il n'y a rien qui a bougé.
Oh,
fait
non.
Que ma première phrase que je me suis dit, c'est les paroles de cet homme-là, puis il y a deux cellules qui ne se régénèrent pas dans la vie, la moelle épinière, puis le cerveau, puis je me suis toute rappelée mes données. Mon nom, c'est Claudia Duchesne, le nom de mes parents, le nom de mon chum, j'ai tel âge, on est telle date, je vis à cette adresse-là, puis toutes les données étaient bonnes.
Et tu sais que tu as toute ta tête, là.
Fait que j'étais tout. T'sais, instant 1, j'étais comme, oh, merci, j'ai encore mon... T'sais, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis vraiment reconnaissante parce que j'ai encore mon cerveau.
Ah oui, c'est pas la première réflexion de tout le monde. Non, monde fait... paniqué, là.
Ben, c'est vraiment grâce à cette phrase-là que j'ai eu pratiquement 2-3 jours avant. Puis on avait passé la fin de semaine avant. T'sais, j'avais été dans un environnement positif de quelqu'un en fauteuil roulant.
C'est quand même fou.
Fait que tout grâce ça, ça a changé complètement le réveil. Puis en changeant complètement le réveil, ça change complètement, je pense, tout le reste du parcours.
Fait que t'avais une mentalité relativement positive.
Ah oui, j'étais contente, là.
À quel moment dans ce processus-là, t'as pensé aux relations sexuelles et ta, et ta relation conjointe quand même? Non, mais je sais pas si tu te réveilles puis tu sais que tu sens plus rien, c'est comme...
Ben quand même, relativement tôt, c'est drôle parce que c'est ça, tu sais, j'avais le ça reste que l'organe sexuel numéro un, c'est le cerveau. Puis on vient de dire, mon cerveau est pas atteint, puis j'ai encore le cerveau de la petite cochonne de la gang, qu'on va dire. Puis je m'en souviens au début, là, je me souviens pas si j'étais encore sur la morphine ou pas, mais j'étais comme, ah, là, j'imaginais, genre, mes jambes bougeaient pas, puis je m'imaginais que mon chum allait partir travailler, puis j'allais mettre des jartelles.
Elle regarde le dit conjoint en ce moment.
J'imaginais mon process de mon chum qui part travailler, puis moi qui passe ma journée à essayer de mettre des jartelles. Spoiler alerte, c'est jamais arrivé.
Ah non, mais t'as un...
Il reste encore du temps, mais pour c'est le dessin. Dans les 6 premières années, il n'y a pas eu de jartelles encore qui se sont mis. De... Ouais, fait que là, j'étais comme, ah... Puis, ouais, je m'imaginais mettre quand même ma lingerie puis tout ça, là, c'était comme dans mes priorités de fille.
Fait que pour toi, c'était pas fini, là.
Non, non, c'était pas fini, puis aussi, ben j'ai eu la chance, dans mon parcours de vie, de côtoyer d'autres personnes qui avaient un handicap avant que moi, j'en aie un. Fait que, tu sais, je le sais que c'est... J'ai comme souvent vu la différence. J'ai eu une différence toute ma vie avec ma maladie. Fait que c'est pas, pour moi, c'était pas fini, mais j'étais pas consciente, par exemple, de... Tu sais, je me réveille, mes jambes bougent pas, puis là, t'as une lésion, tu sais, t'es paraplégique, puis je pense que c'est tellement la société qui fait juste, on va dire, fixer les jambes parce que c'est ce que tu vois, le fauteuil. Fait que t'es pas consciente de tout le reste, là. Tu sais, j'avais une sonde, puis je la sentais.